et France 24 présentent
Mardi politique.
C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 à RFI. Bonsoir Frédéric Rivière.
Bonsoir Roselyne, bonsoir à tous.
Ce soir nous recevons Mathieu Bolreda, secrétaire général de la CGT Cheminots de Versailles. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous.
Merci à vous.
Alors deuxième journée de mobilisation, 339 000 manifestants en France selon le ministère de l'Intérieur, 885 000 selon la CGT, donc là il y a un fossé comme d'habitude. Le mouvement social n'est certes pas terminé, mais convenez que le mouvement n'a pas eu la force du 5 décembre.
Alors bon... Vous dites deuxième journée de mobilisation, permettez-moi quand même de dire que ça fait quand même 5 jours que je suis en grève. Hein. Donc
je veux dire de manifestation.
J'entends bien.
Sensu, pas mobilisation. Non mais
j'entends bien. Alors évidemment, le 5 décembre, on s'y était pris très très à l'avance. Il y avait des bus, par exemple, dans toute la région parisienne, qui nous ont permis de venir, notamment à la manifestation. Aujourd'hui, là, on voit, c'est vrai que les difficultés du transport ont rendu plus difficile de venir. Mais il y a quand même une mobilisation
donc
importante.
Donc c'est à cause de vous, en quelque sorte,
mais,
qu'il y a moins de
manifestants. Oui, mais en même temps, c'est le jeu, si vous voulez. Puis ça me choque pas, parce que l'important, c'est la grève, quand même. Hein. D'ailleurs, on le voit bien, les gouvernements disent régulièrement... vous pouvez manifester, vous pouvez gueuler, c'est pas la rue qui gouverne. La grève, c'est ce qu'il y a de plus fondamental, parce que c'est là où on tape au portefeuille et où, à un moment donné, on montre notre force de travailleur, en fait. C'est-à-dire, on montre que c'est nous qui créons toutes les richesses, que quand on ne travaille pas, le pays s'arrête, le pays se meurt, le pays est à l'arrêt. Et donc, il faut qu'ils entendent le monde du travail. Donc, je pense que c'est ça qui est fondamental. Et la grève n'a pas faibli aujourd'hui, et les plans de transport annoncés pour demain montrent qu'elle est encore très puissante.
Est-ce que vous vous inquiétez d'ores et déjà de savoir à quel moment l'opinion publique peut se retourner, parce que c'est toujours aussi cette alchimie-là qui est difficile à trouver dans un mouvement de grève, entre le soutien aux grévistes, mais aussi à un moment donné l'exaspération liée aux perturbations, quoi.
Alors moi, le retournement de l'opinion publique, on me l'annonce depuis 4 mois avant la grève.
Oui, je ne vous dis pas qu'il est arrivé, mais je vous demande si vous vous interrogez déjà là-dessus et peut-être sur une réflexion sur... C'est l'éternelle question aussi, mais sur d'autres moyens peut-être d'agir qu'en créant des perturbations qui touchent les gens qui veulent aller travailler.
Quoi. Alors, moi je pense que ce n'est pas moi qui crée des perturbations. Ouais. Je ne bloque pas les trains, je ne travaille pas. C'est pas la même chose, conformément à mon droit constitutionnel. Ce qui crée des perturbations, c'est le gouvernement aujourd'hui. C'est-à-dire que le gouvernement refuse de retirer son plan, veut passer en force avec beaucoup de brutalité contre les travailleurs grévistes, mais pas seulement. Contre l'opinion majoritaire des Français, vous l'avez souligné, 70%, entre 68 et 70% en fonction des différents organismes, disent que les Français soutiennent majoritairement la grève. Ces Français qui galèrent et qui souffrent, dont je suis, mais dont beaucoup de gens sont, ces Français qui galèrent, et parce que c'est très compliqué ce qui se passe aujourd'hui. Vous parlez des transports, mais là, on n'a plus aucun produit pétrolier qui sort des sept des huit raffineries françaises. On a des blocages partout, on a des grèves dans tous les secteurs. Alors effectivement, certains ont moins d'impact que d'autres. L'Opéra de Paris, ça a moins d'impact que l'autre. Mais moi, j'ai quand même la quasi-totalité des musées de France qui
l'hôpital
sont touchés.
L'hôpital, 2% aujourd'hui, c'est pas beaucoup?
Oui, mais alors, enfin, l'hôpital sont en grève depuis 8 mois. Et puis l'hôpital, vous savez que c'est compliqué parce qu'on se déclare gréviste, mais enfin, faut quand même venir travailler avec un brassard. Mais je constate que, par exemple, les enseignants, par exemple, sont encore très très mobilisés. Ils l'ont été très fortement la semaine dernière. Ils le sont encore. Beaucoup d'entreprises du privé, les postiers. Il y a forcément des fluctuations. Il y a des gens qui rentrent, qui sortent de la grève et tout ça parce que c'est difficile, parce qu'on perd beaucoup d'argent pendant les grèves. Mais à un moment donné, il reste quelque chose de constant et de très fort. Notamment à la RATP, ça ne faiblit pas, à la SNCF, ça ne faiblit pas, et dans beaucoup d'entreprises du privé. Donc, il y a un chaos social aujourd'hui qui est en train de s'installer en France, et ce que je dis, c'est que c'est le gouvernement qui en est responsable.
Alors, justement, demain, Édouard Philippe va annoncer sa réforme. Est-ce que la seule formule, vous, qui puisse vous satisfaire, c'est le retrait pur et simple du projet, c'est-à-dire que vous n'accepterez rien, même le recul sur les mesures financières, même le recul sur l'entrée en vigueur de la réforme, même sur les compensations pour les fonctionnaires, tout ça vous dites niette.
Mais alors écoutez, évidemment nous on l'a dit, le mouvement ouvrier dans sa quasi-totalité, quasiment l'ensemble des syndicats sauf la CFDT, le dit, nous exigeons le retrait du plan.
Pur et simple.
C'est tranquillement, il faut le prendre. OK, et le mettre à sa place naturelle, les poubelles de l'histoire, et que on ouvre des négociations sur la base des revendications exprimées par les organisations syndicales pour défendre et renforcer le système existant, qui a été mis à mal par beaucoup de réformes, par des déficits démographiques, mais on peut le défendre et le renforcer, notamment dans son financement. On l'a signalé. Et le rapport du Corps, qui n'est pas particulièrement une officine cégétiste, hein, le Corps, l'a signalé, il y a aujourd'hui une manne financière telle que aucun gouvernement n'en a eu depuis la Libération pour pouvoir rééquilibrer le système. On parle de 150 milliards dans les différents fonds de réserve, sans parler du fait que chaque année, 52 milliards d'euros, alors ça paraît fou, hein, mais c'est bien que les téléspectateurs l'entendent, 52 milliards d'euros de cotisations patronales, de cotisations sociales, c'est-à-dire qui financent la sécurité sociale, alors la branche vieillesse, mais aussi la branche maladie et la branche famille, sont exonérés, c'est-à-dire qu'on rend cet argent aux entreprises. Donc j'ai envie de dire que chacun paye ce qu'il a à payer et le système est à l'équilibre. Donc nous, oui, on demande le retrait. Vous évoquiez plusieurs pistes du gouvernement qu'il a distillées hein, à travers soit certains ministres, soit certains députés, qu'il a distillées ces derniers jours. Reculer, par exemple, dire c'est pas tout de suite, c'est dans 15 ans pour certains secteurs. Bon, écoutez, je sais pas, ma fille en a 20. Donc ça m'intéresse pas dans 15 ans. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Et elle en aurait 10, ça m'intéresse pas non plus.
Mathieu Bolreda.
À un moment donné, on se bat pour nous, effectivement, pour nos anciens, mais on se bat aussi pour
nous,
le futur.
Pour tout le monde, pour
tous
les
Français, actifs d'aujourd'hui.
Ouais.
Pour les actifs d'aujourd'hui, on défend l'ensemble du monde du travail parce que c'est tous les régimes qui sont attaqués, pardon. Ouais.
Alors puisque vous évoquez ça, on se bat finalement pour tout le monde. C'est une démarche que vous présentez donc comme plutôt généreuse, celle qui est la vôtre. Alors si vous voulez bien, je vais essayer de mettre votre générosité à l'épreuve.
On doute.
En imaginant on peut penser a priori qu'il est difficile d'instaurer un système dans lequel tout le monde pourrait partir à la retraite à 52 ou 55 ans. Mais imaginons qu'aujourd'hui, c'est un cas d'école, hein, un scénario fiction, que le gouvernement dise, bon, on va supprimer vos régimes spéciaux, mais on va instaurer un système de retraite dans lequel tout le monde pourra partir à 58 ou 59 ans. Est-ce qu'à ce moment-là, vous seriez prêt à faire le sacrifice de vos avantages en vous disant, si ça peut profiter au plus grand nombre, on est prêt à renoncer à certains de nos avantages?
Alors, moi, je pense que c'est un peu de la politique fiction. Oui, m'étonnerait que le gouvernement dise que tout le monde va partir à 58 ans, mais alors que son projet, c'est
non,
plutôt
60
ans.
Bien entendu, mais c'est pour savoir au fond, la question, c'est de savoir si les avantages, ça peut se partager ou si chacun doit se battre juste pour les siens.
Non, mais alors, c'est très... Moi, je suis complètement ouvert à cette question. Le régime spécial des cheminots a déjà été réformé. Nous sommes aux 43 annuités. On est aux 43 annuités, comme dans le régime général, comme pour les fonctionnaires. Donc, déjà, spoiler alert, scoop, France 24. Nous, contrairement à ce qui se dit, hein, nous sommes aux 43 annuités. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, il faut que je parte, grosso modo, à 58 ans. Voilà. Et un sédentaire, c'est plutôt 62. D'accord? Puisqu'il y a une différence entre sédentaire et roulant, c'est très technique. Mais c'est le cas à la SNCF. Moi, je suis complètement pour une harmonisation par le haut de l'ensemble des régimes, sur celui des cheminots, on le trouve tellement formidable et généreux, pourquoi pas? Après, faut que tout le monde et tous les patrons acceptent de doubler leur cotisation patronale, parce que c'est le cas chez nous à la SNCF, on paye plus de cotisations, c'est pour ça qu'on a ce régime plus avantageux, c'est qu'on paye plus de cotisations sociales, mais ou sur celui des sénateurs, par exemple, admettons, hein, on peut tous s'harmoniser par le haut, j'ai pas de débat avec ça, mais le projet du gouvernement aujourd'hui, c'est tout sauf ça, c'est downgrader tout le monde, hein, on ment aux gens, puisqu'on leur dit, il s'agit de fusionner les régimes spéciaux dans le régime général, c'est faux. C'est-à-dire que cette réforme ne concerne pas 150 000 agents des régimes spéciaux, c'est peanuts, c'est ridicule, ce n'est pas le cas. Ça concerne les 23 millions de salariés du privé comme du public. C'est-à-dire qu'en fait, on dit, il y a des petites différences, certains sont sur les 6 derniers mois, d'autres sur les 25 meilleures années, ce sera tous plus bas sur l'ensemble de la carrière, c'est-à-dire ça va faire baisser vos pensions. Il y a des petites différences, certains c'est 58, d'autres c'est 62, ce sera tous 64. À un moment donné, c'est inadmissible. Personne ne peut entendre ça et les Français ne s'y trompent pas.
Est-ce que vous trouvez normal tout de même qu'aujourd'hui, certains partent à 52 ans à la SNCF?
Alors, il n'y en a plus vraiment aujourd'hui.
Il y en a quelques-uns encore, alors que les contraintes du métier n'ont plus rien à voir avec celles de l'époque, hein. Cet âge-là, 52 ans, on partait quand il y avait encore des machines à vapeur, au charbon, etc. Est-ce que vous trouvez normal qu'on parte à 52 ans alors que l'âge de retraite légal aujourd'hui, c'est 62?
Alors, concrètement...
C'est une question.
Non, mais vous aurez une réponse. le régime spécial des cheminots ne veut pas dire régime de faveur, d'accord ? Et il n'est pas nécessairement dicté par la pénibilité au reste. Hein.
Oui.
Même si c'est important, la pénibilité, et qu'elle est prise en compte par certains régimes de retraite complémentaires,
oui.
Par exemple des routiers qui peuvent partir plus tôt. Bon. Et pour l'instant, d'ailleurs,
c'est
personne...
C'est un autre sujet, la pénibilité.
Et d'ailleurs, pour l'instant, personne ne nous parle de pénibilité dans cette réforme. Mais ce qui détermine le régime spécial des cheminots en tant que régime d'entreprise, et qui fait qu'il a cette organisation, cette structure, cette architecture, c'est qu'il est, il y a des cotisations sociales plus élevées en fait, et qui fait que on a une pension qui est calculée sur les 6 derniers mois et pas les 25 meilleures années, et qui fait qu'on peut partir plusieurs années avant. Mais à un moment donné, moi je suis pour. Vraiment, je vous le dis, ce régime spécial, il date de 1909, d'accord ?
Ben oui.
Donc, il a inspiré notre régime général de 1945. Et à l'époque, nos camarades cégétistes, qui étaient aux affaires, hein, Ambroise Croizat était ministre du Travail, ancien déporté, hein, quand même, des camps, et cégétiste, ministre du Travail, qui a fondé la Sécurité sociale, s'est inspiré des régimes généraux. Et il le disait à l'époque, des régimes spéciaux, et il le disait à l'époque, nous n'avons pas encore le rapport de force pour tout harmoniser par le haut, mais c'était le projet des gens de l'époque. Et moi, je garde cette idée chevillée au corps que la logique de progrès social, c'est de tout harmoniser par le haut. La quatrième de semaine de congés payés a été gagnée par les cheminots et les mineurs dans les années 60. Elle a été ensuite généralisée à tout le monde par la grève de 1968. Au lieu de se dire nia 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 nia, celui-là il a 10 balles de plus que moi dans mon assiette, disons-nous tous ensemble, battons-nous pour le progrès social dans un pays qui est la sixième puissance économique du monde, qui a battu des records de dividendes. Je pense que on peut tous en avoir notre part.
Le temps qu'on passe à la retraite aujourd'hui est plus long que le temps que l'on passait à la retraite avant, qui était beaucoup plus court.
Alors, ça dépend des catégories. Je veux bien croire que Bernard Arnault a une plus grande espérance de vie que les gens qui se lèvent.
Vous prenez...
Mais non, mais pas de problème. Écoutez, écoutez, l'INSEE, pareil, qui n'est à mon avis pas une officine gauchiste, bolchevique, l'INSEE nous explique qu'il y a entre 7 et 10 ans d'espérance de vie entre quelqu'un qui travaille en horaire décalé et quelqu'un qui travaille à la journée, tout simplement parce que l'homme n'est pas fait pour se lever avant le soleil, que ça atteint à l'intérieur et que on le voit chez nous dans nos métiers, il y a des gens qui meurent juste avant la retraite ou juste après, etc. Donc ça ne me paraît pas choquant qu'il y ait une différence entre les métiers pénibles et les métiers non pénibles. La Confédération Générale du Travail, pour pas parler que des cheminots, réclame pour le régime général 60 ans pour tout le monde, d'accord, et 55 ans pour les métiers pénibles. Moi, je me battrai pour ça. Je vous le dis tranquillement, je me battrai pour ça.
Alors, je veux évoquer un instant le dialogue social, parce que vous avez dit au début de notre entretien, s'il y a des perturbations, c'est la faute du gouvernement qui veut absolument faire passer son projet. Donc le gouvernement dit, on ne reviendra pas sur le principe d'un système universel par points. Et vous dites, on ne reviendra pas sur l'idée qu'il faut mettre ce projet à la poubelle. Donc, est-ce qu'on n'est pas face à deux intransigeances qui ne veulent pas bouger d'un iota? Et dans ce cas-là, c'est forcément stérile.
C'est un rapport de force, hein, c'est clair.
Ben, il faut bien que quelqu'un fasse un petit pas.
Oui, un petit
vous,
pas.
Mais vous, vous êtes prêt à faire un petit pas?
Oui, mais je ne sais pas de quoi on parle, mais de quel pas vous parlez.
Parce que si vous dites, non, c'est à la poubelle ou rien,
il
n'y a pas de pas possible.
Moi, je serais prêt à faire un pas.
Lequel?
Je reprends le travail si monsieur le président retire son projet. C'est quand même un gros pas.
Ouais, c'est pas de côté, là.
Plus sérieusement, disons les choses. On a un gouvernement aujourd'hui qui a, grosso modo, 30% de soutien, c'est-à-dire, grosso modo, le même nombre dans les sondages que le soutien d'Emmanuel Macron.
Ouais. D'accord.
C'est-à-dire qu'il y a, aujourd'hui, c'est une secte. C'est leur soutien, leurs partisans, qui le soutiennent mordicus et tout ça. C'est-à-dire l'immense majorité des Français. Y compris des gens, d'ailleurs, qui auraient tendance à, avant, dans les grèves, à nous traiter de privilégiés, nantis, etc.
Vous remettez en cause la légitimité des présidents de la République
en
fonction des sondages.
Mais à un moment donné, je pense qu'il y a d'autres présidents de la République avant lui qui ont su quand même entendre la colère des Français par rapport à des projets qu'ils n'avaient pas compris.
Par exemple.
On a célébré la mémoire de Monsieur Chirac il y a pas longtemps, qui avait peut-être eu l'intelligence politique à un moment de dire je ne vais pas violenter la France. Je pense qu'aujourd'hui le président Macron joue le pourrissement. Non mais je le dis, c'est très dangereux. Vous avez vu les images qu'il y a eu à Gare du Nord hier? Moi j'ai Alain Krakowicz quand même qui est président de Transilien, directeur de Transilien. Il dit aux gens sur Twitter, à la radio, ne venez pas dans mes gares, elles sont dangereuses. Mais il les laisse ouvertes. Mais c'est une histoire de fou. On met la vie des gens en danger. J'ai entendu l'appel des commerçants, tiens, qui s'adressait y compris aux organisations organisations syndicales, les commerçants parisiens, et qui disent, attendez, les fêtes, nous, c'est 80% de notre chiffre d'affaires, ça va être une catastrophe. Faites une trêve des confiseurs. Mais aujourd'hui, moi, j'ai envie de leur dire, vous vous adressez aux mauvais interlocuteurs. Faut vous adresser à monsieur Macron et lui dire, mais monsieur Macron, trêve, là, dites, réconcilions la France. Il est le président de tous les Français, je pense, hein, du point de vue, justement, y compris de sa légitimité. Il n'est pas président que de ceux qui l'ont élu ou voté pour lui au premier tour, parce que c'est plutôt de cela dont on parle, quand on voit la différence des sondages. Je pense qu'il lui revient d'être responsable et de dire, attendez, mon projet, ça ne passe pas, je vais mettre le pays à feu et à sang si je m'obstine, je le retire et on discute.
Alors, parmi les pistes, on les a évoquées tout à l'heure. Non, je vous en prie, vous exprimez, mais c'est très bien. Le gouvernement va tenter, j'imagine, d'attirer à lui la CFDT qui est pour cette réforme systémique, pas paramétrique, c'est-à-dire la CFDT ne veut pas entendre parler des mesures d'âge. La CGC, qui est les cadres, qui sont les cadres, et l'UNSA RATP, qui, on va dire, sont des syndicats plus accommodants. Est-ce que vous ne craignez pas de vous retrouver à un moment seul avec EFO, comme pour la réforme de la SNCF, où vous êtes retrouvé tout seul et, in fine, ça a fait pchit?
Alors, moi, je vais vous dire les choses très tranquillement.
C'est ce qui risque d'arriver.
Je pense que d'abord je suis pas Madame Irma, on va voir. Oui, effectivement, la stratégie de Monsieur Macron, on voit bien, c'est essayer de diviser.
Oui.
J'entendais que Monsieur Castaner dit aux policiers que sa réforme est tellement juste et tellement universelle qu'il ne leur appliquera pas. Ne vous inquiétez pas. Donc, on a peut-être raison d'être inquiets. Les autres, à qui elle va être appliquée? Plus sérieusement, oui, il va tenter de diviser, de rallier un tel, un autre. Il y aura des mesures d'âge, des machins et tout ça, du saupoudrage peut-être salarial pour telle ou telle catégorie. Moi, je défends un principe aujourd'hui, en fait. Je défends un principe, la défense, le renforcement de notre régime actuel de répartition. Je le défends par le respect pour nos anciens et les combats qu'ils ont menés, pour notre génération de travailleurs, pour le futur. Peut-être pour mes petits-enfants que je ne connais pas encore, mais que je ne désespère pas de connaître et que j'espère qu'ils auront droit à une retraite digne. Les syndicats ont appelé à la grève. Les syndicats appellent à la manifestation. Une fois que la grève a commencé, cette grève ne leur appartient plus. Même moi, tiens, secrétaire général de syndicat Prout-Prout à Versailles, je ne suis plus rien maintenant. Je suis qu'un travailleur en grève. Et maintenant, la grève, elle appartient aux grévistes. Elle appartient aux travailleurs organisés. À eux de décider démocratiquement dans les assemblées générales s'ils sont convaincus ou pas. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est comme le dentifrice. On a fait sortir la pâte dentifrice. Pour la faire rentrer dans le tube, ça va être compliqué. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut un geste d'apaisement. Il faut un geste responsable et dire qu'on retire ce projet. J'entends les jeunes aujourd'hui qui me disent... Vous rendez compte, vous pouvez pas. Ils m'interpellent, hein, les jeunes salariés, syndiqués ou non syndiqués, hein, et qui nous disent, mais vous, les syndicats, vous pouvez pas accepter la clause du grand-père, la clause du grand-frère, vous pouvez pas accepter que moi, qui suis rentré 2 ans après toi, qui soit un peu, qui n'ai commis que le crime d'être né 5 ou 10 ans après toi, je n'aurais pas les mêmes droits que toi pour faire le même métier. Vous vous rendez compte? Moi, ça me met en responsabilité. Je veux dire, je suis obligé d'entendre ça. Et des gens qui me disent, eh bien, s'il faut faire la bûche sur les piquets, on fera la bûche sur les piquets. Mais je vous rassure tout de suite, madame. Ça ne me fait pas plaisir. Je ne suis pas content aujourd'hui parce qu'on dit ça, tout le monde a ses postures, c'est bien mignon, monsieur Macron a ses postures, mais lui, il perd rien. Moi, je perds 60 balles lourds aujourd'hui, tous les jours. C'est-à-dire que là, je mets en danger ma capacité de payer mon logement, payer mon chauffage. Je vous parle pas des fêtes et tout ça. Et la famille, là, c'est même plus les cadeaux, là. C'est est-ce qu'on peut manger à Noël? Pardon, excusez-moi.
Non, mais
ce que je veux vous dire, c'est qu'on met nos tripes et notre portefeuille sur la table. Ouais. C'est pas pour rien. On en attend quelque chose, oui.
Merci beaucoup.
Excusez-moi.
Voilà. Messieurs, mais je vous en prie.
Non, mais vous exprimez.
Avec passion.
Merci beaucoup, Mathieu.
Tu connais mon blog?
Bien sûr que je connais.